Je suis Marjorie Glas. C'est moi qui ai donc fait cette étude que je vais vous présenter en une petite demi-heure de temps. J'espère que ça ne sera pas trop long et que je conserverai votre attention tout le long. Alors, cette étude, donc, comme ça a été indiqué par les deux premiers intervenants, elle a été évidemment initiée par le pôle art visuel et la ville de Nantes. Et je tiens à remercier Nathalie Lebert et Émilie Tagersoud qui ont été extrêmement aidantes et soutenantes tout au long de l'enquête. Je le fais maintenant parce que je pense que je n'aurai pas le temps de le faire après. Alors, cette enquête, elle a été commanditée. L'objectif, c'était donc de constater les pratiques de rémunération des lieux de diffusion à l'endroit des artistes, pour ensuite identifier des leviers d'action, différentes préconisations qui seraient susceptibles de favoriser l'amélioration des pratiques en la matière. La spécificité de la démarche a résidé dans un travail de construction au long cours qui s'est fait avec un comité de suivi, dont je remercie également les membres, qui était composé d'artistes, d'universitaires, de responsables de lieux, et avec lesquels j'ai pu échanger régulièrement tout au long de l'enquête. Donc ça a été vraiment très important dès la construction de l'enquête jusqu'à la discussion des résultats finaux. Et autre élément également qui a été important, ça a été la présentation à deux occasions, à deux moments de l'enquête, la présentation de résultats intermédiaires lors de temps collectifs avec, pour le coup, des acteurs de la filière, si je ne me trompe, de toute la région, ou au moins de toute la métropole nantaise, mais de la région, il me semble, hein. Et tous ces échanges-là, en fait, m'ont permis, à moi, sociologue, parfois trop théoricienne, eh bien justement, d'essayer d'être au plus près des pratiques des acteurs et puis d'essayer d'émettre aussi des préconisations faisables, réalisables et qui ne soient pas d'énièmes préconisations un peu générales sur le secteur. Donc, j'espère qu'en tout cas, cette étude, elle vous éclairera un petit peu sur la réalité de la rémunération, au-delà des constats qu'on peut faire un peu rapidement, et puis qu'elle vous permettra eh bien, d'avoir des outils utiles pour améliorer les choses, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer en matière de rémunération des artistes. Alors, je vais prendre quatre temps. Je vais vous présenter un petit peu la manière dont s'est construite l'étude. Ce sera rapide, mais c'est important que vous sachiez comment on a travaillé. Un temps pour revenir sur les résultats d'une première enquête, d'un premier volet de l'enquête qui a été menée sur la rémunération des artistes à Nantes. Hein, c'est bien de reposer un petit peu les choses et les réelles conditions de travail des artistes. Un temps un peu plus long sur les pratiques des lieux de diffusion, puisque c'est là la spécificité un petit peu de l'enquête. Et puis, je terminerai évidemment sur les préconisations qui feront sans doute l'objet de la majeure partie de la discussion qui suivra ensuite. Alors, comme je le disais tout à l'heure, voilà, j'ai déjà oublié de tourner mes petites pages. Les objectifs de l'étude donc, étaient multiples. Il s'agissait d'abord de faire une série de constats, de réunir des informations et des données sur les pratiques professionnelles en matière de rémunération dans le secteur des arts visuels à l'échelle de la ville de Nantes. Ça, c'est très, très important. Et de mieux comprendre aussi ce qui motivait les pratiques des acteurs culturels. Donc, il s'agissait de saisir à la fois le niveau de rémunération, mais aussi de comprendre pourquoi le niveau de rémunération était si bas. Quelles étaient les contraintes qui pesaient sur les acteurs culturels, les contraintes matérielles, structurelles, mais aussi des contraintes parfois en termes de valeurs propres au monde de l'art. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, ces objectifs, ensuite, de l'étude relevaient de préconisations. Il s'agissait d'identifier les besoins des professionnels pour favoriser la mise en place d'un programme d'amélioration des pratiques et de structuration du secteur professionnel, qui serait susceptible d'être porté par les acteurs professionnels, évidemment, mais aussi par les collectivités locales, dans l'objectif d'accompagner, justement, une meilleure rémunération des artistes. Alors, je reviens un petit peu sur les enjeux de cette étude. Hein. Il est important de revenir un petit peu sur quelques chiffres nationaux pour donner une idée, même si je pense que là, vous êtes tous assez au courant, mais pour donner une idée un petit peu de la réalité des rémunérations des artistes. L'étude qui a été citée tout à l'heure de Frédéric Patureau et Jérémy Sinigaglia, donc c'est une étude qui a été menée en 2007, mais qui a été publiée fin 2020. C'est l'étude qui donne les chiffres les plus récents hein, sur les rémunérations des artistes. Cette étude, elle montre donc que la moitié des artistes inscrits à la Maison des artistes, donc, ça, pas tous les artistes du coup, mais en tout cas au moins ceux inscrits à la Maison des artistes, touchent moins de 15 000 euros annuels. Et le revenu annuel moyen s'élève à 13 000 euros. Mais le revenu artistique médian est seulement de 5 500 euros annuels, c'est-à-dire la faiblesse des revenus. Je précise que je parle des revenus artistiques, pas des revenus globaux, puisque l'écrasante majorité des artistes a recours à d'autres métiers, etc., qui permettent d'avoir d'autres rémunérations. Outre la faiblesse des revenus, ce qui caractérise la rémunération des artistes visuels, ce sont les importantes inégalités qui les caractérisent. Donc, les écarts sont particulièrement marqués selon la notoriété de l'artiste, hein, puisque pour donner encore quelques chiffres, en 2016, la moitié des artistes se partageaient 16% de l'ensemble des revenus, tandis que les 10% les plus dotés se partageaient 49% des revenus artistiques. Cette inégalité, elle est observable à la fois en fonction de la notoriété, mais également du sexe, puisque c'est un des secteurs d'activité où le sexe est le plus discriminant, puisque, j'y reviendrai, mais en tout cas, cette même étude montre que les femmes ont un revenu qui est 44% inférieur à celui des hommes. Donc, c'est aussi un enjeu extrêmement important. Autre spécificité du secteur des arts visuels, hein, s'agissant de la rémunération, c'est que les difficultés à gagner sa vie en tant que plasticien ont des effets en fait, sur la pratique artistique en elle-même, puisque ça contribue à amoindrir le temps qu'on peut passer sur une activité strictement artistique. Donc, en fait, la même étude hein, de Paturo et Sinigaglia montre que la création représente les deux tiers du temps de travail et un autre tiers est occupé par les activités de production, de recherche de financement, de communication sur son propre travail, de gestion du droit à l'assurance sociale, etc., etc. Cette précarité a enfin des effets sur les conditions de vie en général, hein, puisqu'on a affaire à des artistes qui ont souvent besoin, pour vivre à peu près décemment, du soutien de leurs proches, notamment du soutien des parents, et ce, à un âge avancé. Et ces personnes ont souvent des conditions de travail difficiles, hein, avec notamment une difficulté accrue pour accéder à des ateliers, à des espaces de travail, qui ont tendance en plus à augmenter dans des villes comme Nantes, hein, où on a affaire à un processus de gentrification et d'augmentation de l'immobilier qui a des effets directs sur les artistes. Enfin, dernier élément qui n'amène pas à être très, très optimiste pour la suite, c'est que la faiblesse des revenus semble vouloir se pérenniser dans le temps. Hein. La majorité des artistes ont le sentiment que leurs revenus baissent et qu'il est de plus en plus difficile de vivre de son travail. Et on peut imaginer, alors ça, c'est des sentiments, hein, c'est ce qui est ressenti par les artistes, mais on sait qu'en tout cas, ces 20 dernières années, la population des artistes a doublé, alors que les budgets sont restés relativement stables. Donc, effectivement, l'idée que cette précarité s'intensifie correspond très probablement à la réalité. Donc, ce sujet de la rémunération, il est effectivement fondamental pour les artistes, mais il l'est, on le verra également, pour les lieux, puisque les lieux subissent également une forte précarité, hein, et les personnes qui travaillent dans ces lieux la subissent également, et ils ont également à cœur, évidemment, de moraliser en quelque sorte leurs pratiques et de les rendre plus proches d'une réalité du travail. Alors, je passe très rapidement sur la démarche qui a été la nôtre. Alors, l'idée, c'était d'interroger trois dimensions principales des pratiques de rémunération. Interroger les différentes étapes du travail artistique. Donc, pas seulement, souvent quand on parle de rémunération, on parle souvent de la vente hein, des œuvres. Alors, bon, évidemment, la rémunération du travail, elle devrait s'opérer dès la conception de l'œuvre, passant par sa réalisation, et ensuite la monstration de l'œuvre jusqu'à sa vente. Donc, je me suis intéressée à toutes ces étapes du travail artistique pour voir ce qui est rémunéré, ce qui ne l'est pas. Deuxième élément, il s'agissait d'interroger les inégalités de traitement et de pratique entre individus, entre lieux de diffusion. Comment ça se fait qu'il y a de telles inégalités hein, de revenus? Alors, on parle souvent de la notoriété, mais on verra que c'est rarement la notoriété qui sert à fixer les prix. Donc, les inégalités de revenus ou de pratiques de rémunération, elles sont liées à d'autres choses que la notoriété, contrairement à ce qu'on veut bien croire. Et puis, le dernier objectif, en quelque sorte, c'était d'interroger les contraintes et les valeurs qui pèsent sur les acteurs, qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué de changer les choses, en fait? Puisque, évidemment, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut mieux rémunérer les artistes, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire mieux? Alors, l'enquête, elle était construite en deux phases. Une phase qui a été menée par Sarah Rougnan, qui était stagiaire au Pôle Art Visuel et qui a fait un formidable travail d'enquête auprès d'artistes nantais, auprès d'une dizaine d'artistes nantais. Et puis, moi, j'ai pris le relais entre janvier et mars 21 et j'ai enquêté à ce moment-là auprès des lieux de diffusion. Le terrain de recherche, alors, se voulait le plus représentatif possible du milieu de l'art nantais. Sarah a travaillé sur un panel diversifié de 10 artistes. Alors, 10 artistes, ce n'est pas un échantillon, hein, mais l'idée, c'était d'avoir un panel qui permettait de voir la grande diversité de rémunération qui pouvait exister. Donc, elle a choisi des artistes, des hommes comme des femmes, des hommes comme des femmes, des artistes qui travaillaient sur des médiums différents, des artistes qui bénéficiaient de reconnaissances différentes, qui étaient d'âges différents, etc. Et puis, moi, de mon côté, j'ai travaillé donc, sur 14 lieux nantais, qui, eux, sont représentatifs, pour le coup, véritablement représentatifs de la globalité des pratiques à Nantes, avec à la fois des lieux dits très institutionnels, hein, c'est-à-dire qui émanent d'initiatives publiques, hein, qui sont subventionnées très majoritairement par de l'argent public, des démarches associatives, très souvent donc, de droit privé, mais subventionnées, et puis des démarches privées, donc des galeries privées, avec une diversité aussi de lieux qui répondaient à la fois à des équipes uniquement formées de bénévoles avec des équipes de dizaines de personnes, des budgets qui vont de 2000 euros annuels à plusieurs millions d'euros, etc., etc. Alors, on pourra revenir sur la méthodologie si vous le souhaitez, mais il me semble que ce n'est pas tout à fait le cœur de l'enquête, donc je passe assez rapidement là-dessus. Alors, les premières analyses, d'abord, je vais vous les présenter donc, concernant la première partie de l'enquête qui a été menée donc, chez les artistes. Donc, sans surprise, les artistes sont précaires. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Donc, sans surprise, on observe une faiblesse globale des rémunérations qui est tout à fait à l'image de ce qui s'observe au niveau national. Donc, les artistes nantais ne vivent ni mieux ni moins bien que les artistes des autres villes. Globalement, les revenus obtenus par les artistes leur assurent très rarement de quoi vivre de leur travail, mais contribuent souvent à assurer leur maintien dans la profession. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils gagnent un petit peu d'argent de temps en temps que ça les maintient dans cette idée qu'ils peuvent continuer à être artistes, qu'ils font partie du monde des arts visuels, etc., etc. Alors, là, je vais distinguer un petit peu la rémunération en fonction des activités. Alors, d'abord, concernant les expositions, ne font que rarement l'objet d'une note d'honoraire dans les galeries privées. C'est essentiellement le cas donc, dans les institutions publiques et dans les galeries associatives. La rémunération des expositions est loin d'être systématique. Elle est fréquente, mais elle n'est pas systématique. Il y a pas mal d'artistes qui disent ne jamais avoir été rémunérés dans certains lieux, etc. 62% des artistes interrogés ont été déjà rémunérés dans le cadre d'expositions collectives. Les montants se situaient entre 100 et 1000 euros dans le cadre d'une exposition collective. La rémunération paraît plus systématique pour les expositions individuelles puisqu'elle apparaît donc dans 82% des cas, toujours dans l'étude. Alors, on le voit chez les artistes, en tout cas enquêtés, les expositions, en fait, sont source de revenus, mais ce sont des revenus qui sont très ponctuels, relativement faibles. Et du coup, les artistes, en fait, ne voient pas, en tout cas dans les expositions, une source de revenus stable qui permettrait de vivre régulièrement de son travail. Pour eux, les expositions, l'intérêt des expositions, c'est la rétribution symbolique qui va avec. La possibilité effectivement de le mettre dans un CV, de se créer une réputation, de travailler son réseau, etc. S'agissant de la vente des œuvres, alors dans les galeries privées, la rémunération s'appuie exclusivement sur les ventes. Les ventes sont beaucoup plus rares, on le verra, dans les galeries associatives ou dans les lieux institutionnels, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ce qui est un problème, puisque du coup, c'est une possibilité de rémunération en moins pour les artistes dans ces lieux-là. Je précise, parce que je vais parler beaucoup de privé, public, subventionné, etc., je précise qu'il n'y a pas de meilleur endroit où on serait rémunéré, c'est-à-dire que la rémunération est faible, quel que soit le secteur. C'est meilleur dans le secteur institutionnel, mais ça touche très, très peu d'artistes. Les résidences ensuite. Alors, les résidences représentent pour les artistes une source de revenus intéressante. 80% des artistes enquêtés ont candidaté à au moins une résidence lors de leur carrière. 70% en ont bénéficié. Et ces résidences, elles recouvrent plusieurs enjeux. Elles permettent d'accéder à un lieu de travail, on verra que ça, c'est fondamental, d'accéder parfois à des moyens de production, de consolider un réseau hors de sa ville, ça, c'est important, parce que les résidences offrent une certaine mobilité. Et cette mobilité, elle est d'autant plus importante qu'elle est très valorisée dans les mondes de l'art. La rémunération est aussi une motivation. Même si, encore une fois, les résidences ne représentent qu'une ressource ponctuelle qui ne permet pas de se stabiliser financièrement. Mais elles représentent, un peu comme pour les expositions, eh bien, une ressource symbolique qui est susceptible d'être mobilisée pour valoriser son parcours, encore une fois. Troisième élément de rémunération chez les artistes, c'est le soutien public, hein, à travers les subventions, les prix, etc. Alors, ce que montre là l'enquête, eh bien, c'est ce qui s'observe aussi au niveau national. C'est que les subventions allouées par les pouvoirs publics représentent un autre moyen ponctuel, encore une fois, hein, de rétribution pour les artistes. Mais on s'aperçoit qu'il y a pas mal de trous dans la raquette, comme on dit en ce moment. Tous les artistes ne sollicitent pas ce type d'aide. Les artistes qui se sentent déconnectés de la sphère plus institutionnelle, généralement, n'osent pas solliciter ce type d'aide parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont dans des esthétiques qui ne seraient pas soutenues. Peut-être que c'est une réalité, d'ailleurs. On s'aperçoit que c'est souvent plus difficile pour les artistes au-delà de 40 ans de percevoir ces aides-là. Alors, je précise un petit peu mon propos, c'est que la majorité des artistes qui perçoivent ces aides sont des artistes qui ont percé avant 40 ans. Et pour les artistes qui émergent après 40 ans, eh bien, très souvent, il est beaucoup plus difficile d'accéder à la subvention publique. Alors, pour les artistes qui bénéficient de ces aides-là, elles sont importantes. Il y a eu tout un travail qui a été fait sur le prix de la ville de Nantes, justement, dans le cadre de l'étude. Alors, ce que montre l'étude, en tout cas, c'est que c'est un prix, évidemment, qui est intéressant, hein, qui offre pas mal d'argent, qui offre des lieux de travail, etc. Donc, effectivement, les artistes qui en bénéficient en sont très heureux. En revanche, pas mal d'entre eux sont un peu déçus par rapport aux retombées symboliques qui seraient obtenues à moyen et long terme suite à ce prix, puisque ce n'est pas forcément un prix qui permet de s'ouvrir un réseau extrêmement large. Malgré tout, le fait même de candidater permet de s'ouvrir un réseau au moins nantais, c'est-à-dire d'être repéré parmi les intermédiaires nantais qui seraient susceptibles ensuite de diffuser le travail. Autre dernier point sur cette question des rémunérations, ce qui est observable dans cette première partie de l'enquête sur les artistes, c'est la faiblesse des négociations avec les lieux, et ce, quel que soit ce qui est rémunéré, qu'il s'agisse d'une exposition, de la vente, des résidences, évidemment les subventions, on ne va pas négocier, hein, pour le coup, ce n'est pas posé comme ça. La majorité des artistes considèrent que la négociation est une pratique tout à fait légitime. Ils sont souvent très volontaires dans leur discours en disant « bah oui, il faut négocier », etc. Sauf qu'on s'aperçoit que dans la pratique, les négociations sont extrêmement rares. D'une part parce que les artistes sont dépendants des lieux de diffusion. Et donc, les artistes n'osent pas forcément se mobiliser, évidemment, face aux lieux. Et aussi parce que les artistes intègrent le plus souvent que les lieux n'ont pas de marge de manœuvre pour rémunérer et que, du coup, ben, ils s'auto-censurent en quelque sorte sur ces questions-là. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, l'effet de la faiblesse des rémunérations, c'est la pluriactivité qui est bien connue chez les artistes et dont j'ai parlé. Des artistes qui vivent la précarité au quotidien et ce qui les affecte dans leur travail. Beaucoup font état de grandes difficultés de trésorerie, difficultés de trésorerie qui sont renforcées par les délais de remboursement très importants dans les lieux institutionnels, notamment qui seraient en régie publique. Et un effet également de la précarité, c'est la difficulté d'accès à des lieux de travail. Cette précarité impose donc de recourir à des soutiens extérieurs, qu'ils relèvent de l'aide publique pardon, ou du cercle amical ou familial. 70% des artistes interrogés dans l'étude ont bénéficié du RSA à un moment de leur carrière et 30%, hein, c'est énorme, y ont eu recours sur du long terme, c'est-à-dire depuis le début de leur carrière professionnelle jusqu'à au moins 45 ans, donc hein, sur à peu près 25 ans de carrière, disons. Et ensuite, des aides publiques, donc les aides amicales ou familiales sont absolument récurrentes chez les artistes. La majorité déclare faire appel ou bénéficier de soutien de la part de leurs proches, notamment de leurs parents, je le disais, encore à un âge avancé. Il paraît rare qu'à 40 ou 50 ans, on ait encore de l'aide de ses parents. Et c'est le cas également pour les artistes qui vivent en couple, qui, pour beaucoup, bénéficient, mutualisent leurs revenus avec leur conjoint et considèrent que leur pratique artistique est conditionnée en fait, à leur présence de leur conjoint. Bon, imaginez les effets que ça peut avoir aussi sur une vie privée, hein, en termes de séparation, etc. C'est pas tout à fait rien. Enfin, l'écrasante majorité des artistes donc, travaillent en sus de leur activité strictement artistique. Alors, l'observation participative et partagée qui a été menée en 2011 faisait ressortir que seuls 12% des artistes de l'échantillon vivaient de leur art. Et donc, la majorité doivent cumuler plusieurs activités professionnelles. Les plus chanceux ont des activités qui sont en lien avec leur profession d'artiste, cours, ateliers artistiques, interventions auprès d'établissements scolaires, activités de renfort type régie d'exposition, etc. Et puis, les moins chanceux, j'ai envie de dire, ont recours à des activités complémentaires, mais qui sont plus difficilement valorisables, qui permettent moins aussi de mobiliser un réseau proprement artistique. Alors, beaucoup de petits métiers, en quelque sorte, un petit métier, j'entends en termes de métiers faiblement rémunérés, beaucoup sont animateurs ou animatrices socioculturelles, serveurs, serveuses en restauration, ouvreurs ou ouvreuses dans des lieux culturels, médiateurs ou médiatrices, etc. Et cette pluralité d'activités, cette pluriactivité a des effets aussi sur la pratique artistique, puisque eh bien, c'est du temps disponible en moins, mais c'est aussi du réseau en moins quand on doit travailler dans d'autres mondes, dans d'autres secteurs d'activité. Et ce qui fait que beaucoup des artistes aussi, ceux qui ont plus de pluriactivité, ont plus de se sentent moins légitimes aussi à se maintenir dans le secteur des arts visuels, hein, puisqu'ils se sentent détachés aussi de cet univers professionnel. Et donc, le risque qui va avec cette multi-activité, bah, c'est le risque de sortir tout simplement de la profession de manière un peu prématurée. Enfin, des derniers éléments qui ont été travaillés sur cette partie de l'enquête, c'est d'essayer de comprendre quels facteurs pouvaient influencer la bonne ou la mauvaise rémunération des artistes. Donc, on a testé différents critères, l'âge, le sexe, etc. Alors, l'âge n'a pas d'effet en tant que tel, étonnamment, hein, contrairement à de très nombreuses autres professions où normalement on gagne mieux sa vie en avançant en carrière. Là, ce n'est pas forcément le cas. Là où il y a une différence, c'est que plus on monte en âge, plus les inégalités de revenus sont fortes. Donc, ça signifie que ceux qui parviennent à faire carrière, on voit effectivement leurs revenus augmenter. Mais ceux qui, justement, ont une carrière, disons, stagnante, en quelque sorte, eh bien, peuvent même voir leurs revenus diminuer. Un autre facteur testé, donc, c'est celui du sexe. Alors là, l'enquête n'a pas vraiment bien permis de déterminer les effets du sexe pour des histoires d'échantillons. En revanche, hein, si on se réfère encore une fois aux études nationales que j'avais données, les différences sont extrêmement fortes concernant entre les hommes et les femmes. Voilà, je reprends encore quelques chiffres. Hein. Plus d'une plasticienne sur deux perçoit moins de 5 000 euros en 2016, contre seulement 40% des plasticiens. Seulement 18% des femmes, au contraire, auraient retiré 15 000 euros ou plus de la vente de leurs œuvres sur une année, contre 31% des hommes. Donc là, on a des différences, hein, pour le coup très structurelles. Il y a pas mal d'études là-dessus, donc on ne s'est pas attardé sur ces questions, hein, mais qui expliquent aussi pourquoi les femmes ont plus de difficultés en termes de rémunération. Chose étonnante, c'est que ce que montre l'enquête, en fait, ça corrobore d'autres enquêtes nationales, c'est qu'entre disciplines artistiques, il n'y a pas un gros différentiel de revenus, hein, quel que soit le matériau travaillé ou le médium proposé. J'y reviendrai parce que ça a des effets. Le médium a des effets sur la rémunération, mais ce n'est pas le médium en lui-même qui influence le différentiel de rémunération. On s'aperçoit que le passage en école d'art est un facteur très important d'intégration au secteur professionnel et du coup a un effet de fait sur les rémunérations. Et enfin, ce qui joue très très fort, c'est le poids des réseaux professionnels. Plus on est intégré à un réseau professionnel, plus on a une chance de mieux gagner sa vie. Et c'est le vrai des artistes qui arrivent à intégrer deux réseaux, qui sont le réseau des galeries privées et le réseau plutôt institutionnel, public, parapublic, etc. Ce sont ceux qui gagnent le mieux leur vie. Donc, ce sont les artistes qui arrivent à mobiliser différents réseaux. Ils sont rares, et ils sont d'autant plus rares à Nantes que les galeries privées sont rares, particulièrement celles qui ont pignon sur rue à Paris, là où se fait le marché de l'art en France. Donc, finalement, à Nantes, on a plutôt des artistes qui sont soit du côté du privé, soit du côté plus institutionnel, public, en termes de réseau, et qui, du coup, comme ils n'arrivent pas à mêler les deux, ont des revenus moyens ou faibles. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire chez les artistes. Alors, ce que ça nous a enseigné, c'est que finalement, les conditions de vie des artistes à Nantes sont les mêmes que dans les grandes villes françaises. Pour le coup, on observe exactement ce qui se passe dans les autres villes. Donc, ça nous a permis de confirmer un petit peu ce qu'on attendait de cette étude. Alors, je vais revenir maintenant un peu plus longuement sur les lieux de diffusion et sur les pratiques des lieux de diffusion, puisque c'est vraiment sur cet espace d'analyse-là que j'ai tâché, en tout cas, de construire les préconisations. Alors, la question de la rémunération, une des premières questions qui a été posée, c'est de dire, bon, bah, est-ce que vous vous souciez évidemment de la rémunération des artistes ? Donc, sans surprise, pour tout le monde, cette question est fondamentale. Tout le monde est très, très conscient hein, de la faiblesse, de la précarité des artistes, et ce, quel que soit le secteur, hein, qu'il s'agisse du secteur institutionnel, associatif ou privé, cette question, tout le monde s'accorde, en tout cas, quant à la faiblesse de la rémunération des artistes, quant à la nécessité d'améliorer les pratiques de rémunération. Mais ce constat est le plus souvent empreint d'impuissance et d'une certaine fatalité, hein, avec beaucoup de responsables de lieux qui disent ben, « nous, on veut bien payer les artistes, mais encore faut-il qu'on se paye ou qu'on se paye correctement ». Donc ça, c'est un premier constat qui est fait. Donc, il y a cette fatalité. Et puis, si la question de la rémunération, elle est bien prise au sérieux hein, par les acteurs culturels, ça n'est pas non plus un sujet d'ordre récurrent. On s'aperçoit que ce n'est pas forcément quelque chose qui est discuté beaucoup dans les AG, des associations, etc. Ce n'est pas quelque chose qui fait l'objet de discussions d'équipe. Je pense que c'est lié aussi à la fatalité et aux contraintes très fortes qui pèsent sur les lieux et qui font qu'ils ne voient pas tellement comment ça pourrait être autrement. Du coup, la question n'est pas forcément débattue. Malgré tout, alors plusieurs personnes ont pu me dire pendant l'enquête, c'est vrai qu'on finalement on pose pas la question concrètement, mais les jeunes générations viennent plus nous demander aussi des comptes quand même par rapport à cette question de la rémunération. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a pu me dire, même si on s'aperçoit que finalement, les jeunes artistes qui tâchent de négocier rentrent très souvent rapidement dans le rang et s'auto-censurent par la suite. Autre élément qui a été intéressant très rapidement, c'est le fait que la rémunération est marquée en fait par des conceptions très divergentes de ce qu'elle recouvre. En fait, il y a un flou complet par rapport à ce qu'est une rémunération. Personne n'est d'accord sur la définition d'une rémunération et surtout personne ne se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une rémunération. La rémunération, très souvent, c'est une note d'honoraire globale, un peu fourre-tout, dans laquelle on intègre à la fois des honoraires de conception, de réalisation d'une œuvre, mais on peut même y intégrer les frais de production, on y intègre les droits de présentation, parfois même les droits de reproduction. Donc ça, c'est un souci, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on rémunère, l'artiste ne sait pas ce qui lui est rémunéré, et du coup, il y a un flou complet, parce qu'il n'y a pas de définition de qu'est-ce que ce serait une rémunération. Donc on confond les droits, par exemple, avec la rémunération du travail, concrètement. Donc ça, je reviendrai un petit peu là-dessus, mais ça, c'est un souci, c'est un problème fondamental, puisque à partir du moment où on ne distingue pas ce qui est rémunéré ou pas rémunéré, ben, ça ne permet pas forcément la négociation, ça ne permet pas de réfléchir aussi si on est proche de la réalité d'un travail qui serait fourni. Je rappelle qu'une rémunération, hein, c'est censé rétribuer un travail fourni par quelqu'un. Autre élément, c'est le fait que les pratiques de rémunération, alors non seulement personne n'est vraiment d'accord sur la définition de la rémunération, mais les pratiques de rémunération elles-mêmes sont extrêmement hétérogènes. Alors elles sont hétérogènes selon les lieux, évidemment, vous l'imaginez bien, parce que ça répond à des réalités budgétaires extrêmement différentes, pas seulement. Alors il y a des pratiques qui diffèrent, aussi parce que ben, on est dans un secteur d'activité où il n'y a pas de convention collective, donc pas de convention collective qui permettrait d'homogénéiser les pratiques. Et puis par ailleurs, chose assez étonnante, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'entre le secteur privé, le secteur associatif et le secteur institutionnel, c'est des secteurs qui sont en fait assez étanches, c'est-à-dire que les gens qui travaillent dans un lieu institutionnel ne vont pas forcément partir dans le privé, vice-versa, etc. Ce qui fait qu'il n'y a pas de diffusion non plus de pratiques homogènes. Donc, tout ça explique l'hétérogénéité des différentes pratiques. Alors, on observe d'importants écarts de rémunération au sein des lieux qui sont évidemment liés au différentiel du budget, aux différences de budget disponibles, puisque si on prend les budgets spécifiquement alloués aux arts visuels, on a des budgets annuels qui vont de 2 000 euros à 900 000 euros pour le plus élevé. Dans ces budgets-là, en général, il y a un petit peu moins de 50% qui est dédié à l'artistique, parfois plus quand il s'agit de lieux hein, qui sont uniquement gérés par des bénévoles, où là, c'est quasiment 100% qui va sur l'artistique. Le montant de la rémunération varie également en fonction de ce qui est rémunéré. Alors, si je reprends un peu le différentiel, la typologie que je prenais tout à l'heure entre exposition, vente, résidence, etc., mais cette fois du point de vue des lieux. Alors, la rémunération des artistes sur les expositions, sur les lieux enquêtés, elle varie de rien, c'est-à-dire où aucune rétribution n'est attribuée, c'est le cas dans deux lieux, à 14 000 euros pour une exposition hors frais de production. Donc là, on a déjà un différentiel entre 0 et 14 000 euros pour une exposition. L'enveloppe médiane, c'est-à-dire avec autant au-dessus, autant en-dessous, elle se situe à 1 100 euros pour une exposition. Mais c'est un montant qui doit être pris avec des pincettes parce que dans ces 1 100 euros, parfois, on y intègre les frais de production, parfois même l'achat de l'œuvre. Voyez. Donc, c'est un montant qui est quand même indicatif, qui indique en tout cas la faiblesse des rétributions. Mais qui n'est pas très précis en tout cas. Voilà pour les expositions. Sur le prix de vente des œuvres, alors le plus souvent, sur le prix de vente des œuvres, les galeries privées vont ponctionner 50% sur la vente après déduction des éventuels frais de production. Les galeries associatives tentent à prendre un pourcentage un peu plus faible, considérant qu'étant subventionnées, elles vont ponctionner moins, donc ça descend souvent à 30 ou 40%. Même si en fait les galeries associatives vendent peu, hein, donc ça reste très, très marginal. Là, le prix de vente des œuvres ne va pas dépendre forcément des lieux ou du budget des lieux, mais elle va dépendre de la cote de l'artiste sur le marché de l'art. Alors j'y reviendrai, parce qu'en fait la majorité des artistes n'ont pas de cote sur le marché de l'art, donc c'est plus compliqué que ça. Les résidences qu'on a pu observer, les lieux de résidence, ont des pratiques de rémunération plus stables. Hein. Globalement, le plus souvent, la rémunération se situe à 1 500 euros par mois. Sous forme de notes d'honoraires. Mais là encore, la rétribution inclut souvent les frais de production des œuvres. Et donc là, effectivement, en fonction du médium qu'on travaille, on va se retrouver lésé en termes de rémunération. Et puis, à peu près ça. Autre chose intéressante sur les lieux, c'est qu'à l'intérieur d'un lieu, souvent les revenus sont égalitaires entre artistes. Le seul endroit où il n'y a pas égalité des revenus, c'est sur la vente, puisque la notoriété de l'artiste entre en ligne de compte. En revanche, sur les expositions, la totalité des lieux, pour le coup enquêtés, font le choix d'une égalité des rétributions. Donc, c'est le même budget qui est dédié à chaque artiste. Alors, on peut se dire, comment ça se fait qu'il y a un tel différentiel ? Alors, évidemment, ce sont toujours les mêmes artistes qui accèdent aux lieux qui offrent le plus d'argent, etc. Donc c'est comme ça qu'on observe un tel différentiel. Hein. Les espaces les plus rémunérateurs sont occupés par les artistes les plus cotés, qui sont de fait les plus rémunérés. La fixation de la rémunération, ensuite, alors, elle s'opère différemment selon ce qui est rémunéré. Pour les expositions, les honoraires sont fixés systématiquement selon les moyens de la structure qui accueille. Ils ne sont jamais fixés selon le travail fourni par l'artiste. Donc, de fait, à partir du moment où les honoraires sont fixés selon les moyens de la structure qui accueille, ils deviennent difficilement négociables, puisqu'on admet en fait que les structures font du mieux qu'elles peuvent. Et effectivement, j'ai observé que les structures font globalement du mieux qu'elles peuvent. Autre chose qui rend les choses difficilement négociables pour les artistes, c'est que les conditions d'accueil sont posées généralement très en amont auprès des artistes. Alors voilà, les lieux s'évitent comme ça d'avoir des discussions un peu de dernière minute, un peu qui les mettraient un peu dans l'inconfort. Mais du coup, ça met aussi des artistes dans la situation de se dire bon, voilà, j'ai accepté ce qui m'était proposé, et puis du coup, c'est comme ça. Et puis, autre chose qui contribue à dissuader de toute tentative de négociation, en fait, c'est le principe d'égalité de rémunération au sein des lieux, c'est-à-dire que il paraît compliqué de négocier l'enveloppe qui nous est attribuée si on sait que l'artiste avant et l'artiste après aura exactement la même chose. Donc, les négociations sont rares en raison de tout ça quand il s'agit des expositions, hein, puisque ces enveloppes ne sont pas fixées en fonction du travail fourni par l'artiste, en fonction des pièces qui sont proposées à l'exposition, etc. Alors, il y a pourtant négociations, hein, très souvent, sur les expositions, mais les négociations, elles portent en général sur l'intérieur de l'enveloppe, c'est-à-dire qu'on va dire, il y a 3 000 euros, et puis ensuite, ce qui va se négocier, c'est ce qui pourra partir en frais de production, ce qui pourra revenir un petit peu à la rémunération de l'artiste, qui pourra être payé en droit, etc. C'est des espèces d'arbitrage qui s'opèrent là-dedans. Donc, autant dire que ce sont des négociations qui n'en sont pas, en fait. Hein. Ce sont des fausses négociations. Je vous cite un responsable de lieu qui dit, bon, bah, les artistes, on leur dit, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'on consacre tout à la production ou est-ce qu'on vous réserve une partie en rémunération? Est-ce qu'on fait un mix? Et il nous dit, bah, la majorité des artistes choisit de financer la production des œuvres au détriment de leur rémunération, pensant aussi que, quitte à avoir une rémunération faible, autant pouvoir produire une belle œuvre qui sera peut-être porteuse plus tard en termes de rémunération. Il y a des stratégies de ce type-là aussi qui s'opèrent. Donc ça, ce sont les expositions. Les droits de présentation, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Alors, les droits de présentation, je rappelle que ce sont les droits qui sont payés quand on expose une œuvre. D'accord ? Ce sont des droits de monstration hein, ça, qui viennent rétribuer une partie du travail des artistes. Les droits de présentation, dans la totalité des lieux observés, ils sont systématiquement intégrés à l'enveloppe globale qui est dédiée à l'exposition et sont très rarement distingués de la rétribution du travail artistique en lui-même, ce qui est tout à fait étonnant hein, par rapport à d'autres secteurs d'activité, d'autres disciplines artistiques. Par exemple, dans le spectacle vivant, il y a une distinction qui est systématique. Hein, pour le coup, on paye très rarement les gens uniquement en droit. Il y a d'abord un salaire qui rémunère le travail, et puis ensuite, le travail en quelque sorte de conception de l'œuvre, il est rémunéré à travers les droits de conception intellectuelle. Hein, mais la réalisation, etc., est toujours rémunérée de manière tout à fait séparée. Chose intéressante également, la pratique des droits de présentation, elle est également très variable concernant les œuvres qui sont acquises pour le compte d'une collection publique, qu'il s'agisse d'un frac de musée, d'artothèque, etc. Alors, le ministère a pourtant enjoint à payer systématiquement des droits de présentation sur les œuvres qui sortiraient de ces fonds-là, mais ça n'est pas systématique. Alors, c'est systématique dans les institutions qui sont financées majoritairement par l'État, puisque l'injonction, évidemment, est très, très forte pour eux. Mais c'est très rare dans les artothèques, dans les autres fonds, de voir les droits de présentation payés quand les œuvres sont sorties. Après, ça fait débat, ça pose plein de questions aussi pour ces lieux, puisqu'ils se disent que ça va réduire le temps d'exposition des œuvres. De fait, ils doivent payer à chaque fois les droits de présentation. Ça, c'est des questions qui sont très, très difficiles et qui sont loin d'être résolues. Ou en tout cas, l'injonction à payer n'a pas résolu les problèmes que ça pose. Quoi. Les droits de présentation, pour continuer là-dessus, donc, ne sont pas appliqués dans les galeries privées. Et si les droits de présentation donc, font l'objet de grilles hein, qui ont été édictées, alors à la fois, effectivement, le ministère a édicté une grille qui fait apparaître les montants des droits de présentation. En fait, cette grille est très rarement appliquée, soit parce que les lieux les plus institutionnels considèrent que les revenus sont trop bas, soit parce que pour les lieux associatifs, au contraire, on considère que c'est beaucoup trop haut et que c'est tout à fait inatteignable. Donc, c'est une grille qui ne correspond pas aux possibilités des acteurs culturels. Alors, il existe une grille intéressante qui est celle du réseau Astre, dont tu as parlé tout à l'heure, qui est intéressante parce qu'elle est plus précise et qu'elle permet aux artistes, et au lieu d'avoir un référentiel de ce qui devrait se faire. Malheureusement, ces grilles-là, j'y reviendrai tout à l'heure, elles n'offrent pas beaucoup de solutions, notamment à des lieux qui ne peuvent pas appliquer ces tarifs. Donc, la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Je continue. Le prix de vente des œuvres, dont je vous parle là en dessous, là, le prix de vente alors, est censé être fixé dans les lieux par la notoriété de l'artiste, la notoriété ou la cote de l'artiste sur le marché de l'art. Alors, c'est en fait très compliqué puisque la majorité des artistes n'ont pas de cote officielle. Dans les faits, les galeristes qu'on a pu rencontrer, que ça existe de galeries privées ou associatives qui essaient de vendre, vont s'appuyer soit sur les prix qui auraient été définis en amont par d'autres experts quand l'artiste a déjà vendu, mais ce n'est pas toujours le cas, soit sur ce que les acheteurs en fait seraient susceptibles de dépenser finalement. Hein. Finalement, on s'aperçoit que dans la réalité, pour les artistes émergents, les artistes peu intégrés à un réseau, très souvent, la mise en place du prix se fait en fonction de ce qu'un acheteur pourrait mettre. Donc, en fonction du médium utilisé et en fonction aussi des acheteurs. Alors ça a un effet parce qu'à Nantes, les galeries qui vendent à Nantes vendent, y a peu de gros collectionneurs à Nantes, hein, donc il y a des acheteurs, mais plutôt des petits acheteurs, de petits formats, sur des petites sommes, etc. Ce qui fait que ça a tendance à tirer les prix vers le bas ou à valoriser en fait certains médiums au détriment d'autres. On vend plutôt du dessin, plutôt de la photo, parce que c'est plus facile à vendre à des non-connaisseurs. Et puis, on vend plutôt sur des petits prix, hein, entre 500 et 1500 euros. Au-delà, c'est compliqué. Donc, la vente, en fait, il n'y a pas de prix juste d'une œuvre, déjà. Les prix de vente sont rarement posés en fonction de la notoriété de l'artiste, parce que la majorité n'ont pas de cote. Et en fait, elles se fixent plutôt en fonction de ce qu'un acheteur pourrait mettre. Et donc, vous imaginez bien que c'est très, très en deçà de la réalité du travail fourni aussi par un artiste. Une galerie m'a dit qu'il prenait en compte aussi le temps passé par l'artiste à réaliser une œuvre, mais c'est relativement rare hein, de prendre en compte le temps de travail. Le plus souvent, c'est plutôt en fonction de ce qu'un acheteur pourrait mettre. Les négociations, alors je vous en ai parlé tout à l'heure du côté des artistes, du point de vue des lieux également, les lieux également nous disent que les négociations sont très rares, ou elles ne sont pas vécues comme telles. Le plus souvent, on a affaire à un petit arbitrage qui se joue, donc je vous le disais tout à l'heure, à l'intérieur de l'enveloppe proposée, même s'il est parfois, il y a parfois une petite négociation qui peut s'opérer sur les frais de production, quand les frais de production sont particulièrement élevés. Ce que montre également l'enquête sur les lieux, c'est que concernant la négociation, ce sont souvent donc les plus jeunes artistes qui essayent de négocier leur rémunération. Et le plus souvent, les lieux me disent, en tout cas les responsables des lieux, etc., considèrent que leurs attentes sont finalement relativement irréalistes par rapport à ce qu'ils sont à un moment T de leur carrière, c'est-à-dire en étant en début de carrière. Voilà. Alors c'est intéressant parce que ces jeunes artistes, en même temps, arguent souvent demandent souvent une rémunération plus importante en disant « mais j'ai quand même passé beaucoup de temps à travailler là-dessus ». Donc, ils mettent en avant le temps de travail, le temps passé à fabriquer une œuvre, etc., à la concevoir, à la réaliser, et souvent se font retoquer en disant « mais tes attentes sont irréalistes ». Alors, elles sont irréalistes, effectivement, du point de vue des lieux qui connaissent, eux, la réalité de leur budget hein, et qui savent très bien qu'ils ne pourront pas payer comme ça. Mais c'est intéressant parce que dans leur socialisation professionnelle, eh bien, ces jeunes artistes sont aussi renvoyés vers, en quelque sorte, leur immaturité, leur caractère irréaliste de leur demande, et du coup, vont très, très vite intégrer aussi la réalité de ces lieux-là et les réalités de ces budgets contraints, et très rapidement vont intégrer le fait que ça ne sert à rien de négocier puisque les lieux font bien ce qu'ils peuvent. Et donc, vont accepter, in fine, d'être payés très en deçà de la réalité du travail fourni. Alors, je voudrais passer très, très rapidement sur les différences qui existent entre les différences de pratiques qui existent selon les lieux. Alors, dans les grosses institutions publiques, les rémunérations sont globalement très correctes. Et c'est bien là qu'on se rapproche le plus de la réalité du travail fourni. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que même dans ces grosses institutions dans lesquelles il y a pourtant un personnel compétent en termes administratifs, juridiques, etc., eh bien, il y a souvent un flou juridique persistant. C'est-à-dire qu'on a très souvent une note d'honoraire qui est donnée, mais à l'intérieur de laquelle on intègre les droits, les frais, le travail de conception, de réalisation, etc. En revanche, les frais de production sont systématiquement retirés de cette note d'honoraire et payés en sus. Donc, c'est là qu'on est plus proche aussi de la réalité de ce qui se fait. La rémunération dans ces lieux fait l'objet d'une contractualisation, mais elle est souvent difficile. Les responsables de lieux nous disent à quel point ils s'arrachent les cheveux sur le statut des artistes et sur la difficulté aussi de contractualiser juridiquement autour de la question des droits de présentation, autour de la question des droits de reproduction, etc., etc. Et les seuls qui arrivent à le faire de manière correcte, disons juridiquement juste, ce sont ceux qui ont pu se payer les services d'un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, c'est dire de la complexité de l'affaire. Les lieux associatifs, eux, sont des espaces de débrouille où la rémunération des artistes, je le mets là, est une variable parmi tant d'autres. Ce sont des lieux qui sont extrêmement marqués par leur précarité budgétaire. Ils ont des recettes très faibles, s'appuient souvent sur des bénévoles ou pour les mieux dotés sur un ou deux salariés, comme pour les plus chanceux, qui sont eux-mêmes mal rémunérés. Qui ont parfois des emplois mutualisés, etc. Alors, la précarité de ces emplois, eh bien, ne leur permet pas d'aller chercher des budgets supplémentaires, hein, par exemple, en allant, enfin, ne leur laisse que peu de marge de manœuvre, disons, pour aller chercher du budget supplémentaire, à la fois parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences nécessaires, et puis beaucoup d'entre eux manquent de temps. Donc, quand on leur parle de mécénat ou d'aide au projet parmi différentes collectivités territoriales, souvent, ils disent « oui, oui, je pourrais faire ça, mais en fait, je n'ai pas le temps, et puis c'est compliqué, etc. etc. » Donc, en fait, la précarité de ces emplois induit, en fait, une routinisation, en quelque sorte, de la précarité dans ces lieux. Ce sont des lieux, par ailleurs, qui ont souvent leur budget grévé par d'importantes charges locatives. Et du coup, ben, vous voyez bien que grosse difficulté à augmenter les recettes, des charges locatives importantes, des employés déjà très mal payés. Vous voyez bien que l'espace de rémunération restant pour les artistes se réduit à peau de chagrin. Et puis enfin, les galeries privées, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, dans les galeries privées, on observe la même précarité. Hein, c'est très souvent tenu, en tout cas à Nantes, hein, soit par des bénévoles, soit par une personne salariée, mais faiblement salariée, hein, revenu tout à fait modeste. Ces lieux-là donc, ont également des budgets qui sont grévés par les loyers, hein, par les charges locatives, et ça semble être de plus en plus important. Donc ça, c'est une question fondamentale que celle de l'immobilier. La plupart de ces lieux n'ont pas forcément les moyens qui leur permettraient d'aller régulièrement participer à des foires nationale à Paris ou dans des villes étrangères, ce qui réduit de fait la possibilité de s'ouvrir à d'autres collectionneurs. Donc, en fait, pareil, cette précarité induit une forme de routine qui fait qu'il y a peu de possibilités d'aller au-delà. Alors, les galeries privées ne rémunèrent pas les artistes en tant que telles, rémunèrent qu'à travers la vente, mais le fait qu'elles ne puissent pas élargir leur réseau, bien évidemment, réduit de fait la rémunération des artistes. Alors, sur les lieux, je vais terminer par les différentes contraintes que j'ai pu identifier qui défavorisent la bonne rémunération des artistes. Ça va faire écho à ce que je disais précédemment. Alors, la première chose, ce sont les budgets extrêmement contraints dont je parlais. Ces budgets contraints ont des effets, effectivement, donc sur les salaires des personnes qui y travaillent, mais également sur les frais de communication, les frais de déplacement, tout ce qui permet de créer un réseau, de diffuser aussi le travail d'un artiste, de diffuser le travail d'un lieu. On s'aperçoit que dans la majorité des lieux, les frais de communication sont extrêmement minimes, extrêmement minimes. Deuxième élément, c'est donc la précarité structurelle de l'emploi dans les mondes de l'art, dont je parlais à l'instant, qui fait que, eh bien, on va avoir tendance à recruter des personnes à temps partiel, parfois relativement peu outillées pour les demandes de subventions, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont des profils plutôt d'historiens de l'art, de critiques, etc., mais qui ne sont pas outillés sur les questions budgétaires pour remplir les différentes demandes, et qui ont des difficultés d'accès à la formation. Alors, soit des difficultés d'accès à la formation parce qu'ils n'ont pas assez de droits, soit parce qu'ils manquent de temps aussi pour pouvoir faire une formation, mécénat, que sais-je encore. Troisième élément sont les difficultés administratives et juridiques propres à les filières dont j'ai parlé. Le statut d'artiste-auteur serait à réformer en profondeur, j'y reviendrai. Mais il est nécessaire également d'accompagner sur la question de la contractualisation qui est extrêmement complexe. Enfin, ce qui défavorise la bonne rémunération des artistes, c'est aussi la faiblesse des réseaux. Alors, dans tous les sens du terme, c'est la faiblesse des réseaux professionnels, puisque les professionnels des lieux sont globalement très isolés et ont du mal, en fait, n'échangent que très peu avec leurs alter-ego dans d'autres structures. Alors que l'échange, on sait que c'est quelque chose qui permet de favoriser les bonnes pratiques, de trouver des conseils, des trucs et astuces, etc., qui permettent aussi de s'aider. Donc ça, il est important aussi, bon, je pense que le pôle art visuel fait ce travail, mais c'est quelque chose de très important que de sortir de l'isolement aussi ces personnes. La question des réseaux, elle se pose aussi pour les artistes et les lieux de manière plus générale. Il paraît très important que les artistes et les lieux puissent développer un réseau extra-local, extra-nantais, extra-régional, pour ouvrir aussi le champ des possibles. Et voilà, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et enfin, dernier élément dernier frein important à la bonne rémunération des artistes, ce sont des freins qui sont liés plutôt aux valeurs propres au monde de l'art. Des valeurs qui sont de deux types, qui sont liées d'une part au caractère très solidaire de la relation entre lieu et artiste, alors ce qui est plutôt une bonne chose, mais ce qui fait que cette relation très solidaire entre lui et l'artiste empêche aussi toute négociation. Et puis empêche de voir aussi le rapport de domination qui existe quand même entre un lieu qui invite un artiste et puis un artiste qui est invité et qui ne veut pas laisser passer sa chance, surtout s'il s'agit d'un lieu un peu repéré. Ça, c'est le premier élément de valeur. Puis une autre difficulté liée à la bonne rémunération des artistes, c'est l'impossibilité de penser le temps de travail réel. Moi, ça m'a sauté aux yeux parce que systématiquement, les personnes que je rencontrais me parlaient de l'intermittence comme une espèce d'horizon incroyable qui sauverait les arts visuels. Alors, c'est sans doute vrai, en tout cas, que ça aiderait bien. Mais après, quand je disais, bah oui, mais les intermittents sont eux-mêmes salariés, donc du coup, comment est-ce que vous pourriez comptabiliser le temps de travail sur une œuvre, etc. Qui dit salaire, dit temps de travail. Et là, on a affaire très souvent à des gens qui disent « Ah mais non, mais l'art ne peut pas se réduire à du temps de travail, etc. etc. » Et ça, c'est des questions qu'il faut poser, en tout cas. Si on veut que la rétribution soit posée à hauteur du travail fourni, on peut aussi penser en termes d'heures de travail. Mais ça, ça paraît être un horizon difficile. Alors là-dessus, les sociologues, ni même, je pense, les élus ont de prise là-dessus, mais en tout cas, c'est une question qu'il faut poser. Je vais terminer enfin donc, sur les préconisations que je proposais. J'ai été un peu longue, je suis désolée. Alors, les préconisations que je propose sont diverses et se situent à la fois en amont et en aval du travail artistique. Je tiens à préciser que ces préconisations, idéalement, enfin, elles sont pensées pour être complémentaires et mériteraient d'être absolument toutes mises en œuvre. Évidemment. Et j'ajouterais également que c'est un élément très important, c'est que ces préconisations, elles laissent de côté un aspect fondamental qui est celui de l'artiste-auteur qui mériterait d'être réformé en profondeur, hein, parce qu'il est vraiment absolument problématique. Ce n'était pas l'objet de cette étude. Je ne crois pas qu'on puisse agir directement dessus depuis la ville de Nantes, même si, tu en parleras peut-être Nathalie, je sais qu'il y a des expérimentations en cours sur ce statut au niveau du pôle art visuel. Alors, concernant les préconisations, première préconisation, celle de former les artistes et les professionnels de l'art à la question de la rémunération. C'est le béaba, mais on voit très bien que c'est une question qu'on n'ose pas poser. La question de la négociation, en fait, est difficile. Et donc, il paraît important de former un peu mieux, d'une part, à ce qu'est une rémunération. Qu'est-ce qu'on rémunère ? Est-ce qu'on rémunère le travail de conception ? En quoi les droits, ce n'est pas pareil qu'être payé pour la réalisation, etc. Pourquoi les frais de production doivent être systématiquement enlevés des notes d'honoraires, etc., etc. Ça paraît très important puisqu'on voit que dans les pratiques, c'est des choses qui ne sont pas du tout acquises. Peut-être qu'il serait aussi intéressant de former les artistes aussi, les jeunes artistes, mais pas seulement, au fait que être artiste, c'est aussi un métier. Donc, c'est peut-être aussi un peu du temps de travail. Ça pourrait être réfléchi et discuté dans ce cadre-là. Je précise que ces questions, elles doivent s'adresser certes aux jeunes artistes, étudiants, etc., mais aussi aux artistes plus vieux, hein, puisque pour le coup, sur les gens qu'on a pu interviewer, pour le coup, ces questions, la manière de gérer la rémunération était tout à fait similaire chez des jeunes artistes ou des artistes plus âgés. Deuxième préconisation, eh bien, c'est bien sûr celle d'un soutien financier public accru en direction des lieux et des artistes. Alors, avec trois possibilités, trois suggestions hein, qui sont données là-dedans. Une première qui consiste à solidifier, grâce à l'argent public, les emplois existants dans les structures. J'ai parlé à maintes reprises de la précarité des personnes qui y travaillent. Il est important de solidifier ces emplois. Alors, solidifier, c'est quoi ? C'est pérenniser les postes pour éviter un turnover trop important. Augmenter dans les salaires dans la mesure du possible, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que si on pouvait être un peu plus que le SMIC horaire, peut-être que ce serait correct. Il paraît essentiel également de favoriser la formation continue des personnes en poste afin qu'elles puissent gagner en compétences. Deuxième élément dans le cadre de ce soutien financier public accru, il s'agirait de favoriser la rémunération des artistes, pourquoi pas, en conditionnant l'octroi de subventions aux lieux. Et même aux artistes, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il s'agirait de conditionner les aides publiques attribuées au lieu à la rémunération des artistes. Si les artistes ne sont pas rémunérés, pas de subvention. Alors, la proposition moi, que je fais, c'est pas que la rémunération. En fait, parce que si mettre ça en place suggère en tout cas d'identifier ce que serait de bonnes pratiques de rémunération. On a vu que les grilles qui sont données en fait, sont inapplicables pour beaucoup d'acteurs. Donc, une des solutions pourrait être de proposer, de demander aux lieux qu'il y ait un pourcentage minimum de leur budget qui soit attribué à la rémunération des artistes. Je précise que pour qu'une telle mesure soit applicable et acceptée par les acteurs professionnels, notamment les plus fragiles, qu'il est absolument nécessaire et fondamental qu'elle soit accompagnée d'une augmentation des subventions de fonctionnement, et pas au projet, mais de fonctionnement, hein, qui leur permette d'intégrer la rémunération des artistes, évidemment, dans leur budget structurel. Et puis enfin, dernier élément concernant le soutien financier public, ce serait de proposer un soutien financier accru en direction des artistes, c'est-à-dire des financements directs aux artistes, notamment pour combler ces fameux trous dans la raquette, encore une fois, notamment pour aider les artistes qui ne bénéficient pas des intermédiaires, ou pour permettre aux artistes d'avoir, de compléter au moment, dans les périodes où il n'y a pas de revenus ponctuels, par exemple, parce qu'on a vu que les revenus sont à chaque fois très ponctuels et très émiettés. Troisième préconisation, bien, c'est accompagner la formalisation de contrats à travers des aides juridiques ciblées, donc non pas forcément faire des contrats types, puisque ça existe et on voit que ça ne marche pas, mais plutôt proposer une aide juridictionnelle, une aide juridique plutôt, de juristes qui permettent de créer pour chaque lieu une convention type. Favoriser la vente des œuvres, ensuite, puisqu'il apparaît que la vente des œuvres est un mode de rémunération qui est sous-exploité. Donc l'idée serait peut-être d'aider à la constitution d'un réseau d'acheteurs nantais et nationaux qui permettrait aux acteurs désireux de développer cette pratique de faciliter les ventes. On pourra travailler là-dessus. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a également des lieux qui travaillent auprès d'entreprises privées pour permettre l'achat d'œuvres par des entreprises, etc. Alors pour les galeries qui souhaitent en tout cas se lancer là-dedans, il pourrait y avoir aussi un accompagnement à travers la mise en place d'un réseau, etc., d'entreprises intéressées. Cinquième préconisation, aider au développement d'un réseau professionnel extra-local, notamment à travers... Alors, pourquoi ? Parce qu'on a vu que, quand les structures travaillent en partenariat, on s'aperçoit que ça tente à favoriser un nivellement des rémunérations plutôt vers le haut. Donc, c'est aussi ça, hein, l'idée, c'est de favoriser des projets en partenariat entre structures. Ça favorise de meilleure rémunération des artistes, et puis ça permet de monter des plus gros projets sur lesquels on peut avoir plus d'argent, etc. etc. Encore faut-il que ces lieux se rencontrent, se constituent en réseau, donc il serait intéressant qu'il y ait des aides à la mobilité, à la rencontre, au réseau, etc., pour aider ces lieux à se mettre ensemble, et surtout permettre aux lieux nantais d'aller travailler au-delà de Nantes, au-delà de la région Pays de la Loire, pour élargir le réseau et permettre aux artistes de graviter dans un réseau élargi. Sixième préconisation, aider à la diffusion des artistes pour favoriser les rétributions à moyen et long terme. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les frais de communication, notamment, sont des lignes budgétaires minimes en fait, dans les lieux, alors que c'est quand même des supports qui sont extrêmement importants dans le monde des arts visuels. Donc, favoriser des publications, le travail de critique sur le travail de certains artistes, etc. Ce n'est pas une rétribution pécuniaire, mais ça peut avoir des effets hein, sur la diffusion et c'est sans doute sous-exploité, encore une fois, en raison des contraintes budgétaires. Et puis enfin, dernier élément, il s'agirait de favoriser l'accès aux lieux de travail et d'exposition. J'ai parlé à plusieurs reprises de la question de l'accès aux ateliers et puis des charges locatives pour les lieux. Donc, il paraît important, effectivement, de permettre aux artistes qui sont déjà dans une grande précarité d'accéder à des lieux de travail plus facilement et sur du long terme. Hein, quelque chose qui ressort souvent, c'est qu'il y a certes des ateliers, mais on les a pour quelques mois, un an, et ça permet pas, c'est pas suffisant, tout simplement, parce qu'un travail d'artiste, c'est pas 2 mois ou 1 an. Mais également, favoriser l'accès aux lieux de travail, c'est également pour les lieux, parce que les lieux, je le disais, ont des budgets qui sont de plus en plus grévés par des charges locatives très importantes ou des baux qui arrivent à échéance et qui sont revus à la hausse. Hein, ça précarise aussi grandement les lieux. Et puis, ça contribue à manger tout le budget au détriment de la rémunération des artistes. Voilà, j'ai parlé très longuement, je m'en excuse. Et puis, place aux questions. Merci beaucoup.